bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez l'émission La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft. Alors pour rappel, Picassoft est une association de l'UTC qui a pour but de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Quentin. Bonjour Quentin.
Salut Rémi.
Et on va parler de l'Open Science. Alors pour ça, nous avons Valérie Basseville qui est responsable de la bibliothèque du Centre de Recherche du Système d'Information Documentaire et des Ressources Électroniques de la BUTC. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et je vais laisser Quentin vous poser quelques questions.
Eh bien oui, donc troisième et peut-être dernier volet de la série sur le droit d'auteur et des licences libres. On avait déjà parlé de licences libres, on avait parlé de culture libre et maintenant il est temps de parler de sciences libres. Et donc pour ça, nous on a beaucoup entendu parler de l'archive ouverte pluridisciplinaire HAL ou HAL. Alors honnêtement, je sais jamais trop comment le prononcer, donc Valérie, peut-être que vous pourrez...
HAL, c'est bien.
HAL, et bien c'est parfait. Et donc elle est présentée comme une plateforme qui est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Donc si j'ai bien compris, HAL sert à déposer ses productions scientifiques. Est-ce que c'est le résultat de recherche? Est-ce que c'est des travaux en cours? Qu'est-ce que ça peut être exactement?
Alors en fait, on peut à peu près tout déposer hein, sur HAL, donc des articles, des livres, des chapitres de livres, des thèses, etc. Les seules choses qui ne sont pas autorisées, en fait, ce sont les tables des matières seules, les bibliographies seules, etc. Donc, pour le reste, vous avez le champ libre.
Ok. Et donc, si on respecte ces conditions, est-ce que n'importe qui peut déposer sur HAL? Est-ce qu'il faut être chercheur? Est-ce qu'en tant qu'étudiant, on peut déposer, par exemple, je ne sais pas, un mémoire de recherche de master ou ce genre de choses? Qui peut déposer?
Alors, les mémoires ne sont pas autorisées, mais tous les membres de la communauté scientifique peuvent déposer sur HAL. Il n'y a pas de souci. Uniquement des documents scientifiques de niveau recherche publiés ou non. Par contre, le contenu des textes n'est pas vraiment évalué scientifiquement à proprement parler, mais il y a une étape quand même de vérification. En fait, des textes qui correspondent ou pas aux standards des différentes communautés disciplinaires.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur HAL? Est-ce que ça va être concentré autour des sciences dites dures, des maths, de la physique, ou est-ce qu'il y a aussi des sciences naturelles, des sciences humaines?
Alors en fait, ça concerne toutes les disciplines. Autant des maths que des sciences naturelles, que des sciences dures, etc. La différence, c'est que le CCSD propose des entrées spécifiques de HAL. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu TEL pour les thèses en ligne. Il y a un HAL SHS et aussi dédié aux sciences humaines et sociales. Et puis, il y a Medial pour les photographies et les images scientifiques.
D'accord. Alors, vous avez parlé du CCSD. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors, le CCSD, c'est le Centre pour la communication scientifique directe, qui dépend du CNRS et qui a été à l'origine du développement de la plateforme HAL en 2001.
D'accord, super. Bon, donc c'est une plateforme gratuite où tous les articles de niveau recherche peuvent être déposés. Est-ce que tous les résultats de recherche français sont archivés sur HAL? Et bon, je connais la réponse du coup, et sinon...
Et non, malheureusement non.
Pourquoi est-ce que certains articles n'y sont pas, ou du moins pas encore?
Alors HAL, en fait, c'est une démarche volontaire hein, de la part de la personne qui publie. La loi, elle autorise le dépôt, mais elle ne le rend pas encore obligatoire. Sauf pour tout ce qui est appel à projet européen. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais pour les appels à projet, il y a une obligation de dépôt en libre accès pour les publications qui sont financées.
D'accord, oui, on en reparlera, mais effectivement,
parce que c'est un peu plus complexe. Et puis, le dépôt aussi peut dépendre de la politique d'incitation des institutions ou non.
D'accord.
Certaines universités obligent, entre guillemets, le dépôt des publications dans HAL.
Ok, merci beaucoup. Et est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour les citoyens qui ne sont pas chercheurs d'aller jeter un œil? Est-ce que c'est un des intérêts de la plateforme aussi de permettre aux citoyens et aux citoyennes de se renseigner? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être accessibles aussi au grand public?
Alors HAL a été conçu au départ pour échanger entre chercheurs, mais la consultation d'archives peut intéresser toutes les personnes qui s'intéressent et qui ont une curiosité pour tout ce qui a eu actualité scientifique. Donc je le conseille vivement.
Ok, merci beaucoup pour cette introduction sur HAL, hein, puisque pendant tout le reste de l'émission, on va parler aussi de ce qui a peut-être encouragé les plateformes comme HAL à se développer. Donc je ne sais pas si vous avez le temps de rester avec nous pour l'émission qui devrait durer une quarantaine de minutes, c'est comme vous le souhaitez.
Alors je vais rester avec vous, un petit peu, oui.
Eh bien c'est formidable, donc n'hésitez pas à intervenir quand vous le voulez. Donc nous on va commencer par un petit rappel sur les deux autres émissions, puisque comme on parle de sciences libres, enfin, du coup, il faut définir un petit peu ce que veut dire libre et accès ouvert. Rémi, qu'est-ce que c'est le droit d'auteur en deux mots et comment est-ce qu'on peut le détourner en quelque sorte ?
Alors, c'est un petit peu ce qu'on avait vu pendant les émissions précédentes. Le droit d'auteur, c'est ce qui protège les œuvres dès leur création, c'est-à-dire que ça verrouille leur utilisation et leur diffusion sans l'accord préalable de l'auteur. En France, il se divise en deux branches. On a les droits patrimoniaux, qui ont une durée limitée. En France, c'est en général 70 ans après le décès de l'auteur, sachant qu'il y a des exceptions. Et du coup, pendant cette durée-là, seul l'auteur peut redistribuer l'œuvre et ses ayants droit naturellement, ou du coup vendre les droits vendre ses droits patrimoniaux afin de le redistribuer. Après cette période-là, l'œuvre tombe dans ce qu'on appelle le domaine public, c'est-à-dire que n'importe qui peut la redistribuer. Il existe aussi une deuxième branche du droit d'auteur, c'est les droits moraux. Ça, c'est des droits qui sont incessible et éternel, qui inclut le droit à la paternité, c'est-à-dire que quand on cite une œuvre, quand on publie une œuvre, on doit citer sa paternité, on doit citer l'auteur, même quand elle est tombée dans le domaine public. Et elle donne aussi aux ayants droit le pouvoir de refuser qu'une œuvre soit utilisée d'une certaine façon. Alors tout ça, c'est pratique quand on est auteur, mais ça pose quelques problèmes, notamment pour l'exploitation d'œuvres. Par exemple, on avait vu l'exemple du Petit Prince la dernière fois. Oui, c'est dommage de ne pas pouvoir lire Le Petit Prince à la radio aujourd'hui, alors que l'auteur est mort il y a plus de 70 ans. Du coup, il y a des licences libres qui permettent de « hacker » entre guillemets le droit d'auteur, particulièrement les droits patrimoniaux. C'est-à-dire que quand on dépose une œuvre sous licence libre, l'auteur dit qu'il ne faut pas lui demander l'autorisation pour l'utiliser. Contrairement au droit normal où il faut demander à chaque fois à l'auteur de la permission, avec les licences libres, l'auteur donne au préalable l'autorisation. Du coup, ces licences libres sont un peu des catalyseurs de commun qui facilitent la libre circulation de la connaissance et du coup facilitent l'émergence de l'intelligence collective. On peut citer par exemple Wikipédia ou OpenStreetMap qui permettent du coup, grâce à ces licences libres, d'être collaborativement créées, co-créées et de pouvoir être traduites, modifiées, etc. Du coup, tout ça, ça enrichit aussi la culture. Ça permet la création de fanfiction pour des livres, des choses comme ça. Et ça n'empêche pas l'exploitation commerciale. On peut donner par exemple l'exemple de Pepper and Carrot, qui est une BD de David Revoy, qui diffuse totalement sous licence libre, même les sources de ses dessins. Donc n'importe qui peut reprendre tout, les redistribuer, etc. Et ça n'empêche pas absolument pas de le vendre. Au contraire, il y a même des éditeurs qui lui ont demandé de lui reverser de l'argent à lui pour vendre ses livres. Mais du coup, on a déjà parlé pas mal de licences libres. Pourquoi est-ce qu'on fait une émission sur les publics scientifiques, Quentin ?
Oui, effectivement, là on a fait que redire ce qu'on avait déjà dit sur les licences libres. Les publications scientifiques, ça paraît être un sujet qui est très spécifique. On avait déjà, comme tu l'as rappelé Rémi, parlé de toutes les productions artistiques, donc livres et musique, et de l'intelligence collective. Mais pour autant, les publications scientifiques suscitent beaucoup de débats ces dernières années, y compris dans le débat public, et c'est un sujet d'actualité dont le gouvernement même s'est emparé. On a vu arriver le plan pour la science ouverte qui a été présenté en 2018 et qui a pour objectif que 100% des publications scientifiques françaises soient en accès ouvert. Et le CNRS, en réponse, s'est donné jusqu'à fin 2020 pour atteindre cet objectif. Donc Valérie, on avait dit qu'on en retroucherait un mot. Est-ce que vous avez un petit peu plus d'infos là-dessus ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est faisable ?
Alors, c'est faisable, je ne sais pas. Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question, j'aimerais bien. Mais il est effectivement, le CNRS s'est donné cette voie pour la fin d'année 2020, effectivement. Mais c'est pour toutes les publications CNRS, donc reste le problème de toutes les autres.
Oui, effectivement.
Voilà.
Mais du coup, pourquoi ces publications ne sont pas déjà en libre accès ? Genre le CNRS, les universités, c'est de la recherche publique. Du coup, pourquoi est-ce que les résultats ne sont pas publics ?
Alors effectivement, on parle bien de recherche publique, qui est du coup financée massivement par les citoyens, les citoyennes et par l'impôt. Et on va écouter un extrait qui donne quelques éléments de réponse. Donc c'est un extrait de l'épisode 63 de la websérie Datagone qui s'appelle « Privé de savoir ».
Demandez à des chercheurs de vous envoyer leurs travaux. Faites-les relire par d'autres chercheurs, si possible sans les payer. Ne gardez que les articles les mieux notés Faites-en des journaux et vendez-les. À qui ? Aux universités où travaillent les chercheurs qui vous ont envoyé gratuitement leurs travaux. Un business model de génie.
Alors, détaillons un peu du coup les origines et les fonctionnements de ce système de publication dont on a eu un petit aperçu très condensé. Donc, tout d'abord, bien avant Internet, on avait les revues papier. Donc c'était en quelque sorte un des seuls moyens de diffusion de la connaissance scientifique, en dehors des moyens informels, puisqu'on n'avait pas moyen de les diffuser à grande échelle, autrement que par le papier. Donc ces revues avaient un rôle... Enfin, les éditeurs avaient un rôle important dans la production de ces revues. Donc d'abord celui de mettre en page les revues, d'organiser, de publier des exemplaires, de les envoyer. Donc c'était une logistique très importante. Le nombre d'abonnés à ces revues était relativement faible. On parle de quelques centaines d'abonnés par revue et concernait essentiellement les universités d'un côté, les industriels de l'autre, pour se tenir au courant des avancées scientifiques. Et c'est un système qui, s'il fonctionnait avec certes des défauts à l'époque, c'est progressivement perverti avec l'arrivée d'Internet, parce que les revues y ont vu deux opportunités. La première, c'est celle de réduire les coûts d'édition, parce que sur Internet, on n'a ni impression ni expédition, et celle de toucher beaucoup plus de personnes, parce qu'effectivement, sur Internet, on peut toucher des milliers de personnes, c'est le cas avec les revues aujourd'hui. Et donc, ces deux points combinés, donc toucher plus de personnes et réduire les coûts d'édition, c'est aussi l'opportunité d'engranger beaucoup plus de revenus. Et c'est cette logique mercantile qui a conduit à une sorte d'aberration dont beaucoup de chercheurs sont victimes aujourd'hui. Mais du coup, maintenant, puisqu'on a Internet, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser ces revues si on dit que les éditeurs, finalement, ont un rôle assez marginal et sont essentiellement des personnes qui essaient de se faire un maximum de pognon? Pourquoi est-ce qu'il y a ces revues, Rémi?
Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail de comment fonctionne ce système aujourd'hui. Donc, un chercheur ou des chercheurs financés par des fonds publics vont produire un article scientifique. Ces financements, les financements du coup alloués aux universités qui vont permettre de payer le chercheur et sa recherche sont souvent subordonnés au taux de publication. Donc c'est ce qu'on appelle le publish or perish. Il faut publier, sinon on a moins de financement. En plus, les revues sont classées selon un certain prestige, donc il faut publier dans les meilleures revues pour avoir le plus de financement, etc. Cette revue-là, après du coup la publication, va être soumise à ce qu'on appelle la revue par les pairs. Donc c'est d'autres chercheurs qui vont relire l'article au sein d'un comité de lecture, pour du coup voir si l'article est valable, garantir la qualité et potentiellement donner des pistes pour améliorer, notamment de la relecture, etc. Il se trouve que les personnes qui font partie de ce comité de lecture sont la plupart du temps des bénévoles. Ensuite, une fois que c'est fait, c'est la maison d'édition qui va récupérer l'article, corrigé du coup, auquel le chercheur va céder l'intégralité de ses droits patrimoniaux. Donc la revue a l'exclusivité sur l'article, le chercheur n'a pas le droit de la publier ailleurs, et il y a des options du coup qui permettent au chercheur de pouvoir payer l'éditeur pour que la revue soit disponible gratuitement. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, cette revue elle est revendue aux universités elles-mêmes. Donc on a les financements qui vont au chercheur pour que le chercheur puisse publier dans une revue qu'il va devoir acheter pour consulter ses publications. C'est bien ça, Valérie ?
Oui, c'est ça.
Donc là, effectivement, je pense que quand on entend ce genre de choses, on se dit que c'est un écosystème qui est complètement absurde. Alors oui, c'est un écosystème qui a une part d'absurdité dit comme ça, mais qui est très historique et qui est bien huilé. Et donc, il est littéralement à coup double, comme disait Rémi. Des fonds publics financent la recherche et payent pour avoir accès à ces mêmes recherches. Tout cela, parce que les éditeurs se sont rendus indispensables à court terme en mettant la pression sur les chercheurs et en organisant le processus de publication, notamment à travers le mécanisme de revue par les pairs. Et pire, la plupart des éditeurs, aujourd'hui, se contentent, bon, sauf pour les plus prestigieux, de compiler les articles qu'on leur envoie. Donc les fautes d'orthographe elles-mêmes ayant été corrigées gratuitement par les comités de lecture, et ensuite de les revendre. Donc le coût d'édition est au mieux inférieur à 2% du coût total de la recherche, donc leur rôle effectif est très mineur, mais pourtant ils sont aujourd'hui une des portes d'entrée privilégiées pour la publication. Donc on peut citer quelques noms des géants de la publication en ligne, notamment Elsevier, Springer Nature, Wiley Black Bells et Taylor & Francis. Donc ces éditeurs possèdent à eux seuls 40% des revues scientifiques, et chaque année, les abonnements à ces journaux génèrent près de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et pire, les tarifs des publications scientifiques ont augmenté en moyenne de 7%, alors que les coûts d'édition sont en baisse constante. Résultat, les profits d'Elsevier ont été multipliés par 4 depuis 20 ans. Valérie, je ne sais pas si vous pouvez nous dire deux mots sur comment se passent les abonnements, par exemple, dans notre université, donc à l'UTC. Qui choisit les revues? Est-ce que c'est un coût qui est important? Est-ce que c'est pénalisant? Comment est-ce que ça se passe de votre côté?
Alors, au niveau des abonnements papier ou des abonnements électroniques ?
Alors, plutôt des abonnements électroniques, puisque c'est ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus répandus, j'ai l'impression. Mais si vous avez un mot sur les abonnements papier, c'est avec plaisir.
Alors, pour les abonnements papier, je vais faire vite. Hein. En fait, on les limite de plus en plus, puisqu'on préfère, du coup, l'accès numérique, hein, qui est plus visible par l'ensemble de la communauté scientifique et plus directement accessible. Donc, on ne prend le papier que quand on n'a pas la possibilité ou le choix d'avoir la version numérique. Pour les ressources électroniques, c'est un petit peu différent. Alors, les abonnements sont pris en fonction, évidemment, des disciplines de l'université. Et donc, effectivement, on se concentre sur les éditeurs phares de la publication scientifique qui, de toute façon, restent les pionniers dans leur domaine. Donc, effectivement, Elsevier, Springer, etc. Les coûts sont en fonction, évidemment, de l'éditeur et de la politique de l'éditeur. Alors, si on prend le cas d'Elsevier, c'est l'un des plus gros tarifs, on va dire, de la publication scientifique, hein, au niveau de l'abonnement. Les négociations sont d'ailleurs au niveau national, hein, puisqu'on passe par un consortium qui s'appelle Couperin et qui nous permet en fait de rassembler l'ensemble des universités qui s'abonnent pour obtenir un peu des coûts, alors je dirais pas moindres, mais quand même. Et c'est plus ou moins difficile en fonction des éditeurs. Donc Elsevier reste vraiment le plus dur dans ce domaine.
D'accord, donc là on voit qu'il y a vraiment besoin de s'organiser en quelque sorte pour pouvoir faire un espèce de bras de fer avec les éditeurs et réussir à négocier les tarifs, quoi, ça va vraiment pas de soi.
Et Elsevier, c'est encore un peu plus complexe que pour les autres éditeurs, puisque en fait, ils se sont basés sur une tarification qui était à l'époque sur le portefeuille papier et qui a généré en fait le coût de l'abonnement électronique. Donc en fait, il y a une licence nationale pour l'accès aux archives et puis un surcoût d'accès à la version électronique. Enfin, c'est assez complexe. Et le désabonnement est quasi impossible. Donc c'est soit tout le monde, soit personne, en fait. Voilà, pour faire simple.
Ok, bah ça n'a pas l'air joyeux. Mais du coup, bon, on a bien compris que c'était une grosse machine à fric.
Oui.
Ok, il y a beaucoup d'autres machines à fric. Pourquoi est-ce que celle-ci en particulier serait intéressante, Quentin ?
Et bien parce que la recherche scientifique a un statut très particulier. Alors je dirais pas qu'il a un statut plus important ou supérieur à celui de la culture, mais il a comme statut de traiter des questions qui concernent tous les citoyens et toutes les citoyennes et qui sont déterminantes pour l'avenir du monde. Donc la recherche scientifique, il y a des enjeux majeurs au niveau sociétal, au niveau sanitaire, plus généralement pour l'éducation populaire et pour l'émancipation qui nous sont chères dans la voie libre. Donc on va prendre quelques exemples, hein, au hasard, mais parmi tant d'autres, la recherche sur le cancer, sur le virus Ebola, sur la pollution, sur le réchauffement, donc au hasard, hein, bien sûr, sont très actives et les avancées dans ce domaine permettront de sauver un nombre de vies considérable. Et si cette recherche est essentiellement fermée et que des universités ou même des particuliers ne peuvent pas se permettre de payer leurs abonnements en revue, eh ben on restreint énormément le potentiel d'intelligence collective qui permettrait, in fine, probablement de sauver des vies. Donc à titre d'exemple, le CNRS dépense plus de 12 millions d'euros chaque année pour une cinquantaine d'éditeurs et internationalement, c'est pas plus joyeux qu'en France. L'Université de Californie débourse 11 millions de dollars chaque année pour les revues d'Elsevier simplement. En France, en 2014, les universités auraient dépensé collectivement 105 millions d'euros pour ces abonnements. Qui d'autre peut se permettre une telle dépense ? Même les universités qui ont moins de moyens et qui sont plus petites abandonnent. En 2016, l'Université de Montréal a renoncé aux abonnements à près de 2000 revues faute de moyens. Et donc, on a plein de conséquences à tout ça. Ce système va créer, par exemple, de la redondance sur les recherches. Quand on n'a pas accès à des recherches qui sont déjà publiées, eh ben on peut travailler sur des sujets qui ont déjà été traités, toujours avec de l'argent public, plutôt que de mutualiser les connaissances. Eh ben on va travailler en quelque sorte chacun dans son coin, ce qui peut constituer un frein à l'innovation. Alors un autre problème auquel on peut penser, eh ben c'est celui des sources. On lit un article de vulgarisation dans un journal, en tant que citoyen, hein, on veut consulter les sources pour en savoir plus ou pour vérifier simplement la crédibilité de l'article, et bien là, il faut débourser plusieurs dizaines d'euros pour en savoir plus, ce qui dépossède complètement le citoyen de l'hygiène informationnelle la plus basique. Donc en résumé, c'est environ 90% de la recherche publique qui ne revient pas au public. Les chercheurs, mais aussi les journalistes, les décideurs, les vulgarisateurs et, in fine, les citoyens et les citoyennes sont privés de savoir. Mais la question, c'est aussi de savoir, est-ce que ça a toujours été comme ça ? Puisqu'on a parlé des revues papier et d'Elsevier à la fin du siècle dernier, enfin de tous ces éditeurs qui avaient des revues papier, mais historiquement, comment c'était, Rémi ?
Eh bien, c'était pas comme ça, effectivement. Donc, la publication scientifique fut un temps, les articles étaient considérés comme des communs. Donc les communs, c'est des choses qui appartiennent à chacun. La propriété intellectuelle, du coup, sur ces questions-là, se travaillait essentiellement sur le critère de créatif des œuvres. Et donc, énoncer les lois de la gravitation, par exemple, il n'y a pas de création, il n'y a pas de créativité de l'auteur, donc il n'y a pas de propriété intellectuelle dessus. Du coup, il n'y avait pas de questions à se poser, et juste, on énonçait des lois, on énonçait des choses qui étaient, par conséquent, communes et libres. Du coup, au XVIIIe et au XIXe siècle, la citation longue était de mise. Hein, quand on citait quelque chose, on citait parfois l'article entier, juste pour citer une petite partie. Et les jurisprudences et jugements reconnaissaient les effets pernicieux d'une propriété littéraire perpétuelle sur la diffusion des connaissances. En 1852, un traité bilatéral entre la France et l'Angleterre lève toute ambiguïté sur ces questions, et les dispositions se rapprochent d'une licence libre. On peut traduire, republier les articles dans de nouvelles revues, pourvu que l'auteur soit au moins cité. La convention de Berne en 1886 prévoit ainsi que les articles de journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être reproduits en original ou en traduction dans les autres pays de l'Union, à moins que l'auteur ou les éditeurs ne l'aient expressément interdit. Et ça fonctionne plutôt bien jusqu'à la conférence de Berlin en 1909 qui met fin à ces dispositions en normalisant le droit d'auteur, et progressivement, eh bien, toutes les revues profitent de cet état pour forcer les chercheurs à leur céder leurs droits ou alors à payer pour participer, pour passer en libre accès. Alors comme d'habitude, on a dressé un tableau assez noir, mais du coup Quentin, est-ce que tu as des solutions pour rapprocher la science des citoyens ?
Alors des solutions, oui, j'en ai des tas, et on va en citer quelques-unes. Alors la première, sans doute pas la plus souhaitable et la plus, pérenne, mais c'est une sorte de boycott qui peut se montrer efficace. Hein. Comme Valérie nous l'a rappelé, la négociation avec les éditeurs est très difficile. Alors elle peut passer d'un côté soit par des consortiums des agrégats d'universités qui vont négocier collectivement les tarifs, ou bien par le boycott. Par exemple, après un bras de fer entre les universités néerlandaises et Elsevier en 2015, qui avait décidé de ne plus payer pour les revues, Elsevier accepte que 30% des publications scientifiques soient disponibles en open access sans coût. On a d'autres exemples plus récents. Après que des universités suisses, états-uniennes, hongroises et norvégiennes au début de l'année, donc 2019, aient suspendu leur abonnement, Elsevier a créé de nouvelles licences spécifiquement pour ces universités afin d'autoriser la publication d'un certain nombre d'articles en open access et sans coût supplémentaire. Mais ça, Rémi, c'est pas très viable, quoi. Si à chaque fois il faut se battre afin d'obtenir un petit bout de quelque chose.
Surtout si on l'obtient que pour soi et même pas pour les autres.
Exactement, parce que c'est des licences pour une université en particulier.
Et il y a d'autres sur la loi. Alors ça, on a plusieurs exemples, notamment en Allemagne, en 2000, la loi a décidé de réduire à un an le droit d'exclusivité d'un article. C'est-à-dire que l'Allemagne a décidé qu'au bout d'un an, un article pourrait appartenir à son auteur et non plus à la revue. En France, on a la loi pour une République numérique qui autorise les chercheurs à mettre à disposition leur article finalisé en libre accès au bout de 6 mois pour les sciences et la médecine, 12 mois pour les sciences humaines et sociales, et ce, quelle que soit la politique des éditeurs. Par contre, c'est uniquement si la recherche est financée par des fonds publics, mais ça semble plutôt cohérent. Et du coup, en Europe, on a le plan S, qui est élaboré par plus de 16 agences nationales de recherche, qui prévoit entre autres l'obligation de publier les recherches financées par des fonds publics dans des revues compatibles avec l'open access, et ce, sous licence ouverte, comme la CC BY. Alors bon, il y a des levées de boucliers qui ont un peu ramolli les mesures de ce plan, qui devraient être appliquées en 2021, mais ça reste une mobilisation assez massive. Valérie, je ne sais pas si vous avez des petites remarques par rapport à ce plan.
Alors, non, vous avez bien résumé la situation. Je pense que la problématique de la science ouverte aujourd'hui et de tout ce qui est open access, c'est effectivement déjà une méconnaissance en fait de la part de la communauté scientifique. Il y a quand même un gros point information qui doit voir le jour aujourd'hui. Il y a un changement de mentalité qui est hyper important pour moi.
Et moi, je me posais la question aussi, Valérie, on imagine qu'avec des lois qui pourraient contraindre du coup les éditeurs à laisser les personnes mettre, les chercheurs et les chercheuses mettre leurs articles en accès libre, est-ce que vous pensez, par exemple, sur les coûts des revues qui augmenteraient, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ? Comment ils voient ça, les éditeurs ? Est-ce que vous en savez quelque chose ?
Alors là, c'est une très bonne question. Alors j'aimerais bien que ça ait un impact sur les coûts, hein, puisque les abonnements et les acquisitions, en fait, et notamment dans le domaine scientifique, représentent des parts importantes des budgets, hein, des collectivités. Donc on serait tout à fait heureux sur ce point. Après, j'avoue que c'est un peu un sujet qui me dépasse. Je ne me permettrai pas de répondre à la place des éditeurs.
Bon, moi j'ai une petite idée de leur réponse, mais ne soyons pas médisants. Bon, alors on a aussi une troisième solution, hein, qui consiste assez radicalement à se passer de revue, par exemple, et de recourir aux licences libres. Donc aujourd'hui, avec le développement des licences Creative Commons, dont on a longuement parlé dans cette série d'émissions, n'importe quel chercheur peut mettre à disposition son travail, par exemple, sur Internet. Mais alors là, se pose la question de la revue par les pairs. Alors, on peut aussi très bien imaginer se passer des éditeurs, hein, vu qu'ils font que l'organiser, mais en pratique ne font rien. C'est toujours les chercheurs qui travaillent bénévolement au sein de ces comités de lecture, afin de garantir la qualité des publications scientifiques. Donc le fait que la revue par les pairs soit l'apanage des éditeurs tient plus d'un étau qui s'est lentement resserré que d'une nécessité. Alors on devait avoir Stéphane avec nous dans l'émission pour travaille comme cela sur son site aswemay.fr où il diffuse ses recherches sous licence libre. Mais alors on a aussi bien sûr besoin de plateformes en ligne qui sont sérieuses et qui peuvent se substituer aux revues dans leur forme actuelle. Et donc on a déjà parlé d'Al, on peut aussi parler d'Open Edition, qui fonctionne plutôt dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et en revanche, moi je me suis vraiment posé la question, peut-être que Valérie vous avez quelques éléments de réponse. Effectivement, il reste encore à la revue par les pairs, il faut qu'elle s'organise sur ces plateformes, parce que sinon évidemment il est compliqué de garantir la qualité des articles. Est-ce qu'aujourd'hui par exemple sur HAL on peut différencier un article qui a fait l'objet d'une revue par les pairs d'un article qui n'en a pas fait l'objet?
Alors on le voit notamment en fait à la notice aux références bibliographiques. La majorité des articles qui ont été publiés en fait ont ce qu'on appelle un DOI.
Oui.
Voilà. Et ensuite il y a alors on peut le voir aussi au niveau du dépôt du texte intégral, notamment par le fait qu'il y a un contrôle qui est fait avant que l'article soit accessible par les autres communautés scientifiques, dans la mesure où en fait on ne peut déposer la version finale d'un texte qui est publié. C'est toujours la version auteur, hein, bien évidemment, sans la mise en forme de l'éditeur. Donc, à part le DOI et éventuellement le nom de la revue dans laquelle l'article a été publié, c'est un petit peu plus complexe effectivement pour savoir si c'est un article qui a bénéficié d'une publication ou pas.
Mais du coup, ça veut dire que pour le moment, un article qui aurait été revu par les pairs et dont la qualité est garantie, mais qui n'a pas été accepté dans une revue, n'aura pas de DOI.
Oui.
D'accord. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, enfin, une quatrième solution, je mets des guillemets dessus, évidemment, nous n'incitons à rien, mais dont il faut bien parler, puisqu'elle agit du piratage. Donc, il faut mettre de gros guillemets sur ce mot, parce que le mot piratage est quand même très péjoratif et surtout très flou. Pour introduire ce sujet, on peut brièvement parler de deux personnes au destin emblématique et également tragique, qui sont battus pour la libre circulation de la connaissance, qui mériteraient plusieurs émissions et qui ont fait l'objet de documentaires qu'on vous recommandera à la fin et qui sont excellents. Donc la première personne dont vous avez sûrement, dont certains d'entre vous ont sûrement entendu parler, qu'il s'agit d'Aaron Swartz, un activiste prodige qui a entre autres participé au développement du format RSS, également Creative Commons, et qui a combattu des projets de loi liberticides comme SOPA et PIPA en 2011. Et il a milité tout au long de sa vie pour le libre et les communs. Alors c'est une bien maigre reconnaissance que de résumer sa vie à ça, mais on n'a pas... Évidemment, on est sur un format court, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'après s'être battu pour mettre à disposition du public une gigantesque base de données de documents judiciaires qui auraient dû l'être, il télécharge en 2011 la quasi-intégralité du catalogue de JSTOR, un éditeur, à partir de son université, qui avait donc payé les accès, c'était le MIT. Donc personne ne sait à ce jour ce qu'il comptait en faire. Ça aurait pu aller de la méta-analyse de publication à la mise aux dispositions du public, qui aurait donc été illégale. Et la justice américaine, plus que l'éditeur lui-même, qui lui a abandonné les poursuites, s'acharne contre lui avec pas moins de 13 chefs d'accusation et la menace d'une peine de prison de 35 ans. Et la pression est telle qu'il ne se suicide au début de l'année 2013. Donc cet acharnement révèle la rigidité du système de justice américain, qui en s'appuyant sur des lois qui sont inadaptées au numérique contemporain, ne fait pas la différence entre le téléchargement de publications scientifiques et un crime qui serait littéralement bien plus préjudiciable. Et au sujet de la libération des connaissances scientifiques, on peut citer l'exemple célèbre de Jack Andraka, un adolescent de 15 ans qui sème les graines d'un nouveau moyen moins coûteux et plus efficace de dépister le cancer du pancréas après avoir consulté des publications en libre accès sur Internet qui auraient été autrement accessibles à pas moins de $35 sur les sites des éditeurs et qui cite Aaron Swartz comme l'un de ses inspirateurs. Donc tout ça pour introduire aussi le fait qu'aujourd'hui, mettre en libre accès des publications scientifiques qui ne soient pas de base en libre accès, eh bien, est vu comme un véritable crime et non pas comme un moyen de libérer les connaissances. Alors toute cette introduction pour arriver, Rémi, tu vas peut-être nous en parler, à un site qui est extrêmement utilisé aujourd'hui pour libérer la connaissance scientifique.
Exactement, il s'agit de SciHub, SCI-HUB, qui a été fondé par Alexandra Elbakian, une chercheuse en neurosciences. Alors, ce site héberge aujourd'hui des copies de plus de 76 millions d'articles scientifiques et en permet la consultation gratuite. Bien évidemment, c'est illégal. C'est pour ça que Alexandra Elbakian a été poursuivie à de multiples reprises par Elsevier, a été menacée d'extradition et condamnée à presque 20 millions d'euros d'amende de dommages et intérêts. Alors, si le site viole évidemment le droit d'auteur et les contrats des éditeurs, il est massivement utilisé à travers le monde, aussi bien par les chercheurs et les étudiants que par d'autres citoyens. Et tout particulièrement, bah on a vu qu'aujourd'hui en France, on a des universités qui ont de l'argent et qui peuvent payer ces revues, aux États-Unis également. On voit que bah, même au Canada, à Montréal, ils ont arrêté de le faire. Alors, on peut penser à des pays qui ont moins de moyens que nous. Et notamment, en Inde et en Iran, bah, SciHub est énormément utilisé parce que ça permet aux chercheurs de pouvoir avoir accès à la science, justement. Donc, si chacun peut avoir son avis sur la moralité du piratage et de SciHub, ben, au moins on a une plateforme qui permet à chacun de pouvoir s'instruire et consulter des articles scientifiques sans avoir à se payer le luxe de payer des gros éditeurs qui coûtent très très cher.
Donc voilà, on a fait un tour d'horizon des solutions possibles et en place pour libérer la culture scientifique. Moi, si je devais donner un avis personnel, eh bien, je dirais qu'il n'y a aucune de ces solutions qui se suffit à elle-même. Hein, sans doute un mélange de toutes ces solutions, à la fois au niveau législatif, au niveau du mécanisme de prestige des grandes revues qui aujourd'hui sont un argument suffisant pour que les chercheurs publient. Et puis voilà, je sais pas. Donc là, on arrive à la fin de, en tout cas pour ma part, de notre échange. Si vous avez quelque chose à ajouter, et ben libre à vous.
Valérie, peut-être.
Non, ben je vous remercie de m'avoir invité, d'avoir aussi ouvert un débat aussi important pour notre institution et pour l'ensemble des institutions, hein, de toute façon. Donc je ne peux que prôner l'open access. Donc voilà, allons-y.
Eh ben, c'est un beau message de fin.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Valérie. Ben, on vous souhaite une excellente journée et à bientôt, peut-être.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Bon, et puis avant de terminer l'émission, il nous reste évidemment le traditionnel quiz. Rémi, tu veux le lancer ?
Allez, du coup, aujourd'hui, lorsqu'un chercheur écrit un article scientifique afin de le rendre en libre accès, il peut A. le diffuser sur son site web sous une licence libre, B. le payer, une option libre accès à un éditeur, ou c'est le déposer sur une plateforme d'open access comme HAL ou Open Edition en France.
Eh bien, avant la réponse du quiz, on va écouter la traditionnelle musique sous licence libre. Et ce sera Croire de David Ducrot, qui est en CC by NCND, qui a été déniché sur le site Dogmazic. Bonne écoute.
J'ai l'art de me hisser derrière les miroirs, faut dire que songer, c'est du saphir. C'est l'acte de découper les cheveux en quatre et puis en quatre, encore en quatre, il faut croire. Et pas seulement voir. Et 10 morceaux d'étoiles, dis-moi ce que c'est que ce voile. Faut pas se voiler la face, pas jouer un pile ou face, il faut savoir voir. Il faut savoir voir l'invisible. En somme, c'est l'infini qui est planqué dans l'atome. Oui, mais ainsi dit, c'est pas très poétique, petit homme. Il faut croire, et pas seulement voir. Lunettes astronomiques, myopes comme des taupes, des coupes anatomiques du Frankenstein. Lâchez vos stéthoscopes, une minute. Et 10 morceaux d'étoiles, dis-moi ce que c'est que ce voile. Faut pas se voiler la face, pas jouer à pile ou face, il faut savoir voir. Il faut savoir voir. Morceaux d'étoiles, dis-moi ce que c'est que ce voile. Faut pas se voiler la face, pas jouer à pile ou face, il faut savoir voir. Il faut savoir voir. De me hisser derrière les miroirs, faut dire que songer c'est du saphir. Il faut croire.
De retour, c'était donc Croire de David Ducrot en CC by NCSA, déniché sur Dogmazique. Alors, pour finir cette émission, la réponse au quiz, eh bien, c'est un peu les trois. C'est-à-dire que gratuitement, on peut le diffuser sur son site web sous une licence libre, ou bien déposer sous une plateforme d'open access comme HAL ou Open Edition, ou alors, effectivement, on peut payer une option d'accès libre à un éditeur si on désire être édité. Pour finir, Quentin, je vais te laisser nous dire quelques petits liens.
Alors oui, quelques liens. On a parlé tout au long de l'émission de HAL, qu'on peut retrouver sur hal.archive-ouverte, le tout au pluriel.fr. On peut également retrouver Open Edition, donc pour les sciences humaines et sociales, sur openedition.org. On avait dit qu'on mentionnerait le documentaire sur Aaron Schwartz, donc il s'appelle The Internet Owns Boy. Il est diffusé sur Internet sous licence libre, évidemment, donc il raconte son histoire beaucoup mieux que nous, et on vous le recommande. Le site où Stéphane Croza diffuse ses travaux et articles, sous licence libre également, donc c'est aswemay.fr. Et enfin, un site où on peut trouver l'adresse de SciHub, whereissaihub.now.sh. Bien sûr, comme on en avait parlé, comme ce site est illégal dans la plupart des pays, eh bien, il est soumis à la censure DNS, et pour ça on vous renvoie à notre émission sur la neutralité du net. Voilà Rémi pour les liens.
Super, merci beaucoup. Eh ben, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Merci à tous et bonne fin de journée.
Yes, bonne journée, à la prochaine. Ciao.